Vous écoutez
RMC.
Mercredi 10 juin.
L'info sur RMC.
Il est 8h02, Céline Kallmann est là pour les infos. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. Faut-il doter tous les policiers d'un taser, une arme pourtant constamment décriée? Christophe Castaner a émis l'idée après l'annonce de la fin de la technique dite de l'étranglement. Troisième projet de loi de finances depuis le début de la crise, budget qui devrait finalement atteindre 460 milliards d'euros. La crise du Covid-19 aurait-elle pu être mieux gérée? Qui sont les responsables des défaillances? Une vaste enquête préliminaire est ouverte après le dépôt d'une quarantaine de plaintes. Bienvenue à tous sur RMC. Comment interpeller un délinquant sans la technique dite de l'étranglement? Pour Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur le disait ici même hier matin, le pistolet à impulsion électrique fait partie des alternatives. Certains syndicats de police demandent à ce que cette arme soit généralisée, sauf que l'utilisation du taser n'est pas sans risque. Thomas Chupin.
Pour le syndicat de police Alliance, c'est donc une certitude. Le pistolet à impulsion électrique est la solution pour remplacer cette technique d'étranglement supprimée. Grégory Goupil est l'un des représentants du syndicat en Île-de-France.
Il suffit d'utiliser le taser en position choqueur pour pouvoir maîtriser l'individu. C'est une petite décharge électrique, mais il y a deux positions avec le taser. Vous avez la position choqueur et la position des sondes qui neutralise en fait la relation entre la moelle épinière et le cerveau et qui la neutralise complètement l'individu.
S'attaquer à la moelle épinière et le cerveau, ce n'est pas du tout anodin. Cela demande une formation générale qui n'existe pas aujourd'hui, même en école de police. Pourtant, le taser a tué en France comme à l'étranger. L'ONG Amnesty International parle d'une arme redoutable. Anne-Sophie Saint-Père est l'une des porte-parole de l'ONG.
En droit international, ça ne peut pas être utilisé simplement pour maîtriser une personne, puisque comme il y a un risque létal, ce serait tout à fait disproportionné de prendre le risque de tuer une personne simplement pour la maîtriser. Par ailleurs, aujourd'hui, le cadre du débat est essentiellement sur qu'est-ce qui nous reste comme usage de la force. Il y a beaucoup d'autres choses que les policiers doivent maîtriser, à commencer par la négociation, la communication.
Et pour Amnesty International, en France, policiers et gendarmes sont mal formés au dialogue, à la psychologie et emploient trop souvent la force comme premier recours.
Hier soir, des milliers de personnes se sont rassemblées contre le racisme et les violences policières un peu partout en France. Au moment où se déroulaient les funérailles de George Floyd aux États-Unis, de nouvelles manifestations sont prévues ce week-end. RMC 8h05, des milliards et encore des milliards. Le gouvernement déploie aujourd'hui en Conseil des ministres un nouveau budget en soutien au secteur dévasté par la crise. Troisième projet de loi de finances rectificative pour tenter de limiter la casse. Hier soir, Bruno Le Maire a annoncé la couleur. Des centaines de milliers de personnes vont perdre leur emploi dans les mois à venir en France. Parmi les secteurs les plus touchés, le BTP. Victor Joinin, d'après vos informations, des mesures d'urgence seront annoncées aujourd'hui pour ce secteur.
Une première série de mesures s'attaque à la problématique des surcoûts sur les chantiers, c'est-à-dire les retards causés par le confinement et le respect des règles sanitaires comme l'achat de gel par exemple. Ces surcoûts devront être partagés entre les maîtres d'ouvrage publics et les entreprises du BTP et pour compenser la baisse de leur rentabilité, les PME de moins de 50 salariés paieront seulement la moitié de leurs charges sociales de mars, avril et mai. Deuxième axe, le soutien à la relance, 1 milliard d'euros va être injecté dans les finances locales, notamment pour investir dans la rénovation thermique des bâtiments publics. Des mesures qui sont loin de satisfaire les fédérations du BTP. Elles espéraient notamment une réduction du taux de TVA, mais le ministère du Logement estime que le secteur a bien rebondi. Depuis la fin du confinement, plus de 85% des chantiers du bâtiment ont repris et 99% des chantiers de travaux publics.
Pour l'instant, aucune annonce forte concernant les familles les plus précaires, fragilisées par la crise du Covid-19. Pourtant, sur le terrain, eh bien, les associations voient la situation se détériorer concrètement de jour en jour. Leur reportage en région parisienne de Florian Chevalet.
Au siège du Secours catholique de Seine-Saint-Denis, les appels de familles en situation de détresse continuent d'affluer.
Et avec l'assistante sociale, vous en avez parlé de cette difficulté financière?
Valérie est animatrice de réseau de solidarité.
Elles sont en difficulté pour acheter des couches, du lait. Ils ont les enfants qui vont pas à l'école, donc il faut les nourrir.
Entre 15 et 20 nouvelles familles appellent tous les jours, selon Camille Hugues, déléguée départementale du Secours catholique.
Ce sont des familles qui étaient inconnues de nos services précédemment. Et aujourd'hui, ce sont des personnes que l'on doit aider pour qu'elles puissent arriver à se nourrir correctement et avoir un niveau de vie digne.
L'autre urgence pour ces familles, le logement. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, demande un fonds d'aide de 200 millions d'euros.
Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus payer leurs loyers et leurs charges et ça va s'accentuer dans les mois à venir. C'est une vraie bombe à retardement.
Côté politique, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, demande un plan massif pour lutter contre la pauvreté.
Il n'y a eu que 800 millions d'euros de débloqués pour aider les plus démunis. Ils n'ont perçu que 150 euros. Une seule fois sur toute la crise, c'est loin d'être suffisant.
Si certains membres du gouvernement souhaitent des aides pour ce public, pour l'instant, rien n'est décidé.
Les salariés de Derichebourg, sous-traitants d'Airbus, votent la grève reconductible jusqu'à vendredi. Ils refusent la proposition de leur direction de baisser leur salaire pour sauver l'activité. Et si les restaurants rouvraient avant le 22 juin en zone orange, Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État au tourisme, n'y est pas fermé. Actuellement, les restaurateurs ne peuvent servir les clients qu'en terrasse. RMC 8h08, une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Homicide et blessure involontaire, non-assistance à personne en péril. Le parquet de Paris se penche sur les responsabilités dans la gestion de la crise sanitaire. Des dizaines de plaintes ont été déposées, des syndicats, des médecins, des particuliers qui cherchent les responsables donc à ce manquement en début de l'épidémie. Jean-Baptiste Bourgeon.
Le docteur Ali Djemoui, médecin généraliste dans le Val-de-Marne, est mort à 59 ans du Covid-19. En première ligne, face à l'épidémie, sa veuve estime qu'il n'a pas été assez protégé.
Pas de gel, pas de blouse. J'aurais acheté peut-être des masques à mon mari. Pas de masque. Je pense qu'on n'a pas été accompagné. Je suis désolée. Il est parti en 5 jours. Il ne savait même pas qu'il avait le Covid-19. Comment voulez-vous, il n'y avait pas de test. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau de la gestion, au niveau de la communication, au niveau de la prévention sanitaire. Beaucoup d'erreurs.
Persuadé aussi que son mari est mort contaminé par ses patients, il en côtoyait près de 60 par jour dès le mois de février. Pourquoi les autorités de santé n'ont-elles pas réagi, s'emporte maître Fabrice Divisio, son avocat.
Alors que la maison brûlait déjà dès le mois de février en Ile-de-France, alors que les médecins du secteur étaient contaminés, tombaient comme des mouches, aucune mesure n'a été prise avant le début du confinement. Qui est responsable de quoi ? Pourquoi ?
L'avocat pointe aussi la responsabilité de l'ordre des pharmaciens qui, selon lui, n'aurait pas voulu délivrer des masques au début de l'épidémie afin de respecter les consignes du gouvernement.
Si vous avez des enfants au collège, le reportage qui va suivre va sans doute vous parler. Le protocole sanitaire, vous le savez, a largement modifié l'organisation des classes. Résultat, les élèves se retrouvent parfois avec des enseignants qu'ils ne connaissent même pas. À Marseille, situation encore plus hallucinante. Des élèves en classe de 3e ont eu la semaine dernière des cours de chinois alors qu'ils n'étudient pas cette langue. Nicolas Repère, Benjamin Pelsi.
À la place d'un cours de maths ou de français, vendredi dernier, Jérémy, élève de 3e, a eu une initiation au chinois.
On a fait 1h30 de chinois et après, la prof, elle s'est dit qu'on comprenait un peu rien et elle a voulu changer. On a juste traduit un texte en espagnol et un texte en italien.
Une improvisation totale, selon le père de Jérémy, qui ne décolère pas.
On attendait vraiment beaucoup de ce mois avant les vacances pour les remettre dans le rythme. C'était finalement plus une garderie qu'autre chose. Donc, déçu un petit peu en colère. De se dire que les profs ne jouaient pas le jeu alors que les enfants, eux, étaient présents en cours.
Pour Sandrine Perrault, la représentante des parents d'élèves, l'enseignement dispensé en classe depuis la reprise du collège n'est pas satisfaisant.
Je conçois qu'ils ne fassent pas les emplois du temps et que ce soit le même professeur qui les suit pendant toute la demi-journée pour des raisons d'hygiène, mais je comprends pas pourquoi c'est pas des vrais cours.
Le rectorat assure de son côté que cette heure de chinois est la conséquence d'une réorganisation à la dernière minute des emplois du temps et que depuis, les choses sont revenues à la normale.
Un collectif de parents d'élèves d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis réclame en justice la réouverture de toutes les écoles primaires de la commune. Une audience doit se tenir cet après-midi. En football, le Conseil d'État a retoqué l'ensemble des requêtes de Jean-Michel Aulas en signant l'arrêt de la Ligue 1 à la 28e journée. Toulouse et sont pour l'instant maintenus en Ligue 1. Noël Le Graët sera à l'Élysée à 17h. Le président de la Fédération française de football espère la présence de 20 000 spectateurs pour les finales des Coupes de France et de la Ligue. RMC s'associe à Reporters d'Espoir dans le cadre de l'opération La France des Solutions, tous mobilisés. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon où les musiciens de l'Orchestre National de la Ville entament une série de concerts. Ils jouent dans l'EHPAD Les Girondines pour la plus grande joie des résidents. Florence Donjon.
Quelques notes de musique et la magie opère, les mains battent la mesure, les corps se réveillent sur des airs connus de tous.
La 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 la.
À 90 ans, Raymonde esquisse même volontiers quelques pas de danse, elle est conquise.
J'adore. Moi, je suis toute seule, je suis une vieille, j'aime bien les gens comme ça.
Yves, lui, est mélomane, ce concert est un vrai moment d'évasion.
C'est une musique qui porte de l'espérance, qui porte de la joie.
Ces émotions fortes, Carole Millet les ressent aussi en tant que musicienne.
De jouer en petite formation, il y a un échange. On envoie quelque chose, on a une réponse. Et pour moi, humainement, c'est tellement important de pouvoir prendre l'instrument, d'aller jouer partout, c'est génial.
Après 3 mois particulièrement difficiles, Pascale Malter, directrice de l'établissement, savoure ce moment de bonheur bien mérité.
Là, c'est de nouveau de la joie qui rentre dans l'établissement avec cette musique. Et ça, c'est fantastique.
Les concerts se poursuivront dans les différents établissements de la ville jusqu'au milieu de l'été.
8h12, merci Céline, c'est beau. Un peu de musique le matin comme ça. Bon, Samir n'est pas d'accord avec ce que nous venons de faire et chacun a le droit de s'exprimer sur l'antenne d'RMC, vous le savez. Le temps que je suis là, c'est comme ça que ça va se passer. Le Plessis-Trévise, le Val-de-Marne. Bonjour Samir.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Samir, vous n'êtes pas d'accord avec... Expliquez-moi sur quoi vous n'êtes pas d'accord.
Non, en fait, Samir. C'est la manière, parce que j'ai regardé la dernière fois. Je peux tutoyer, Jean-Jacques ?
Vas-y, Samir.
Bon, en fait, la dernière fois, j'ai vu, tu as invité Vincent Traoré pour qu'elle puisse s'exprimer et tout.
Normal.
Sur l'affaire de son frère Adama. Et je me dis aujourd'hui, le parallèle, il est trop facile. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, ah, ben en fait, la famille Traoré, elle n'est pas toute blanche. Et peut-être que c'est normal. Et c'est ce qu'on attend sur les réseaux sociaux, parce que je regardais Twitter en même temps. Et je me dis, mais Jean-Jacques, aujourd'hui on est en pleine élection municipale. J'invite Agnès Buzyn et Madame Hidalgo, va devenir dérouler sur votre plateau ou pas le casier judiciaire de la famille de Rachida Dati. Parce que c'est pareil, on parle de l'affaire Traoré. Dans ces cas-là, déroulons les casiers.
Mon cher Samir, on a parlé de la famille de Rachida Dati, mais enfin, qui n'a pas de comparaison avec avec la famille Traoré. Samir. Alors, si on dit, on parle pas d'un fait parce que on ne parle pas d'un autre fait, Samir, ce n'est pas possible. Il est bon dans la vie de dire la vérité. Et de dire les faits, Samir.
Le secret judiciaire. Comment
quel est le secret judiciaire? Il n'y a pas de secret judiciaire, là.
Un casier, qui peut l'avoir, un casier judiciaire?
Mais non, mais il n'y a pas de secret judiciaire, puisqu'il y a des affaires en cours.
Oui,
bah, comment, bah, oui.
Je sais pas, qui c'est qui a sorti les cas, enfin, je me rappelle plus quel...
Mais non, mais Samir, notre métier... Quel est le métier d'un journaliste, Samir? C'est de rapporter des faits. Et je rapporte des faits. Et que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je rapporte des faits. Des faits. Et les faits existent. Et c'est mon boulot, Samir.
Oui. Je crois que c'était une magistrate qui est venue et qui dit, la ministre de la Justice ne peut pas interpeller dans des affaires judiciaires. Les journalistes ne peuvent pas avoir accès à un casier judiciaire.
Mais je n'entre pas dans une affaire judiciaire. D'accord. Je rappelle les faits, mon cher Samir. Et le rôle du journaliste, c'est de rapporter des faits. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mon cher Samir.
Bien sûr, ça plaît.
Bon, c'est mon boulot. Des condamnations sont publiques. Elles ont existé. Je fais mon métier, mon cher Samir. Voilà. Et je l'assume. Bon, ben, c'est sympa, Samir. Merci, Samir. Allez. Salut, Samir. Salut.
Au revoir, Jean-Jacques.
Salut, Samir. Il est 8h15. Allez, Catherine Hill est avec nous. Bonjour, Catherine Hill. Pardonnez-moi pour mais il est bon de rappeler les faits, hein. Justement. Alors, les faits, vous êtes épidémiologiste. Dites-moi. Le gouvernement va nous annoncer demain, c'est pas encore officiel, mais je vous le dis, une accélération du déconfinement. Vous êtes favorable à une accélération du déconfinement ou pas ?
Ben, pas vraiment. Je trouve ça un tout petit peu inquiétant. Le virus continue à circuler, visiblement. Oui. Il y a des foyers partout dans le pays.
Oui.
On teste assez mollement, puisqu'on n'utilise que la moitié des tests qu'on a à disposition.
Oui, enfin, il y a de moins en moins de personnes en réanimation, et il y a de moins en moins de personnes touchées par le virus, qu'a tout de même Catherine Hill.
Oui, mais...
Vous n'allez pas nous confiner pendant des mois et des mois.
Non, mais les gens d'Ontario ont réfléchi à ce qui se passait à la fin du confinement. Et ils ont essayé de voir au bout de combien de temps l'épidémie risquait de reprendre.
Oui.
Et ils ont, si on extrapole leur calcul d'Ontario à la France, ils disent que selon la prudence des gens à partir du 11 mai, selon que les gens étaient très prudents ou pas du tout, se sont mis à vivre normalement, le début, on va revoir la résurgence entre le 8 juin, c'est-à-dire avant-hier, et le 22 juin.
Ah bon ? Vous dites ça risque là de ressurgir.
Ça pourrait, il suffit de pas grand-chose. Vous avez bien vu à Mulhouse, vous mettez des gens dans un endroit confiné qui chantent et pouf, vous êtes reparti avec une épidémie.
Ouais. Alors les Chinois nous méfiance. Vous dites méfiance. Tiens, un mot avant de donner la parole à Quentin Wiener. Est-ce que les rassemblements que l'on voit ici ou là aujourd'hui sont des nids à virus ?
Pas vraiment, si les gens ont des masques et ils sont dehors, c'est beaucoup moins embêtant que d'être dedans et de chanter ou de crier dans un lieu fermé. Les lieux fermés, c'est bien pire.
Bon. Vous n'êtes pas favorable donc à une accélération du déconfinement.
Moi, je comprends bien les arguments économiques et tout le monde en a marre, etc. Mais oui. Franchement, dans les restaurants déjà à Paris, l'autre jour, j'ai dîné dans une terrasse dehors. Oui. Mais dedans, c'était pas vraiment la terrasse. Il y avait déjà pas mal de monde. Donc évidemment, c'est un peu inquiétant. Il n'y a pas beaucoup de virus qui circulent. Il nous manque aussi une estimation de la proportion des gens qui se promènent aujourd'hui dans le pays porteurs du virus, en train de cracher autour d'eux. On ne sait pas ça. Combien il y en a ? Il y en a forcément, puisqu'il y a des foyers. Donc comment le virus est arrivé dans ces foyers ? On ne sait rien.
Alors, le virus qui aurait pu apparaître dès le mois d'août, Quentin Vinet ?
Août 2019, effectivement, ce sont des chercheurs américains qui disent ça, les scientifiques d'Harvard et de Boston qui d'emblée se défendent, hein, ils disent qu'ils n'ont pas reçu de financement, ils n'ont rien à voir avec le bras de fer Pékin-Washington. Voilà pour la précision. Bon, ils ont scruté de près les images satellites de la ville de Wuhan. Ils ont regardé 140 images par jour entre 2018 et 2019 et ils ont remarqué une très forte augmentation du trafic sur les parkings des 6 grands hôpitaux de Wuhan à partir du mois d'août avec un pic en décembre. C'est pas tout. Sur la même période, ils ont remarqué une forte hausse des recherches internet concernant les symptômes du coronavirus, les symptômes que l'on retrouve peu avec la grippe saisonnière, la toux, la diarrhée. Alors la Chine trouve que c'est ridicule d'observer ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, selon ces scientifiques, ça veut dire que le virus était sûrement présent dès le mois d'août en Chine, bien avant le cluster de Wuhan.
Ouais, c'est possible, Catherine Hill.
Ça change rien à rien.
Oui, je suis bien d'accord. Si ça change que les Chinois ont caché au reste du monde pendant plusieurs semaines la réalité de la situation, peut-être aussi.
Peut-être, mais en tout cas, pas entre août et décembre.
Oui, d'accord. Mais enfin, bon, Catherine Hill, pas de prolongation de l'état d'urgence, a dit le gouvernement. Je vous sens un peu très prudente.
Mais oui, je suis prudente. C'est mon métier d'être prudente.
C'est votre métier,
on a un virus qui est quand même assez perfide. La moitié des contaminations viennent de quelqu'un qui n'a pas de symptômes et qui ne se sait pas contaminant. C'est pour ça qu'il faut que les gens aient des masques. Parce que celui qui est porteur du virus, il ne faut pas qu'il le crache aux alentours. On porte un masque pas pour se protéger soi-même. On porte un masque pour que celui qui est positif, qui ne se sait pas positif, ne crache pas son virus.
Dans tous les cas, le virus circule toujours, même s'il circule à bas bruit, vraiment.
Oui, absolument. C'est bien ça le problème.
Oui, c'est ça le problème.
Et il faut le trouver. Pour le trouver, il faut tester autour des cas pour trouver tous les porteurs. Si le virus est rentré dans des EHPAD pendant cette semaine où il y a eu, je sais plus, 34 morts dans des EHPAD, ce virus, il est rentré dans ces EHPAD, qui l'a apporté dans ces EHPAD ? Où sont les enquêtes sur le personnel des EHPAD qui introduisent le virus ? Est-ce qu'il y a des nouveaux EHPAD qui sont contaminés ? On ne sait pas. On manque beaucoup de données.
Bon, mais Catherine, on manque beaucoup de... Vous dites méfiance, et méfiance testé, notamment pour l'automne.
Et une méfiance aussi
vraiment,
pour tout de suite.
Est-ce que vous croyez vraiment que les températures ont une influence sur la vie du virus ?
Alors, je trouve pas ça... Les données sont pas très convaincantes. Il suffit de regarder qu'il y a eu des cas en Islande et à Hong Kong, et en Australie, et partout. Donc ce virus a l'air de se fiche un peu pas mal du climat. Alors, version optimiste, il n'aime pas la chaleur, mais bon, ça reste à démontrer, et l'humidité, bof.
Alors, il y a une enquête dans le Figaro, qui paraît aujourd'hui dans le Figaro, qui nous dit que le confinement a permis d'épargner 690 000 vies. Ça vous paraît raisonnable, ça ?
Il y a eu un moment où le nombre de morts doublait tous les 3 jours. Donc, continuez à faire doubler le nombre de morts tous les 3 jours.
On arrive à ces chiffres-là.
Ouais, vous arrivez à tout ce que vous voulez, c'est pas difficile, ça.
Bon. D'accord. Merci Catherine Hill. Merci beaucoup. Vous êtes épidémiologiste, 8h21, et vous êtes sur RMC ce matin. Allez.
À suivre.
Mon cher Mathieu, oui.
5 millions, près de 5 millions de Français vivent chez leurs parents ou chez leurs grands-parents, génération Tanguy, mais peut-être aussi génération Boomerang après la crise. On va tout savoir. Frédéric Simotel dans un instant sur RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin direct. Allez, il est 8h26. Je suis avec Frédéric Simotel. 5 millions de Français, Frédéric, de plus de 18 ans, vivent encore chez leurs parents. Ouais. Parmi eux, 900 000 font d'ailleurs partie de cette génération boomerang. Ils sont revenus vivre à la maison, souvent pour des raisons financières.
Oui, c'est une étude de vivre chez ses parents ou chez une autre personne à l'âge adulte, publiée par l'ADRES, c'est la Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation des Statistiques. Et effectivement, donc alors c'est 4,7 millions pour être précis, mais voilà, en global, 5 millions de Français adultes vivent donc chez leurs parents, leurs grands-parents ou chez un membre de leur famille. Alors, il faut savoir que 57% sont des hommes, 70% ont sans doute un peu, ont 18-24 ans, 58% ne sont plus étudiants, donc donc ils ont commencé à travailler, mais 20% sont quand même au chômage. Alors ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que parmi ces 5 millions, eh bien, il y a un cinquième, c'est à peu près un peu moins d'un million, 900 000, qui font partie de cette génération boomerang. C'est des gens qui ont quitté le cocon familial et qui finalement sont revenus.
Pour des raisons financières, j'imagine.
En général, c'est ça. Hein, c'est manque de ressources financières pour 75% d'entre eux, manque de ressources donc pour vivre au quotidien, manque de ressources aussi pour avoir accès à un logement, hein, que ce soit à la location, pour avoir un prêt immobilier, des incertitudes liées à la crise, des risques de précarisation. Beaucoup ne sont pas en couple, sont même en rupture de couple. Certains aussi ont des problèmes de santé, oui, ça existe aussi. Un tiers quitterait le logement familial s'il le pouvait. Et puis, bah, il faut le rappeler, hein, les jeunes aujourd'hui, 45% des jeunes qui démarrent aujourd'hui, il n'y a que 45% des jeunes qui démarrent aujourd'hui qui ont un CDI. Hein. Tout le reste, 55%, c'est du CDD, c'est du stage, c'est de l'apprentissage. Donc c'est compliqué de quitter le cocon familial. Bon, faut quand même rassurer certains parents. Il y a un million de ces 5 millions qui préfèrent rester quand même vivre avec leurs parents, le confort matériel, enfin
ben voilà.
Tout ce que ça peut entraîner derrière tout ça.
Merci Frédéric Simotelier, 8h28. Merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous le matin, qui nous suivent, qui nous accompagnent. C'est un immense plaisir de vous savoir là. Vous connaissez notre lien. Le 32-16, demain vous continuerez à nous appeler, à nous regarder, à nous suivre, à nous accompagner. À la télévision, vous êtes tous les jours plus nombreux et j'en suis très heureux. Toute l'équipe est là aussi pour vous. Hein. Merci à toute cette équipe. Ségolène Royal sera mon invité dans un instant sur RMC et sur BFM TV. À tout de suite, 8h29.
RMC Bourdin Direct,
Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Ségolène Royal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. George Floyd est devenu le symbole des violences policières et racistes, sa mort. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'engager? On ne l'a pas entendu.
Tous les chefs d'État, je pense, doivent s'engager. Angela Merkel l'a fait, le Premier ministre canadien Trudeau l'a fait également. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est ce qui se passe. Il se passe un mouvement mondial de lutte contre le racisme. Qui s'inscrit d'ailleurs dans la foulée des prises de parole des victimes au sens large. Dans le mouvement MeToo, ce sont les femmes qui ont pris la parole sur les violences conjugales, sur les assassinats des femmes par leurs conjoints, etc. Ça veut dire qu'on rentre dans une société où les victimes réalisent qu'elles peuvent prendre la parole et qu'elles ne sont pas seules. Et ce mouvement mondial ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que ces prises de parole ne vont pas s'arrêter. Et donc, les pouvoirs politiques doivent savoir comment répondre à la fois à l'émotion, bien évidemment, mais surtout à la rationalité de ces prises de parole pour apporter des solutions.
Répondre à l'émotion, ça ne veut pas dire subir le diktat des réseaux sociaux ou de l'émotion.
Vous avez raison. Les mouvements sociaux, bien sûr, les mouvements sociaux, on y trouve à la fois le pire et le meilleur.
Les réseaux sociaux, oui.
Et de ce point de vue, c'est le meilleur qui en sort. C'est quelque chose quand même de très positif.
Oui.
On peut d'ailleurs inscrire dans ce mouvement mondial les manifestations pour le climat, puisque ce sont les générations victimes, c'est-à-dire les plus jeunes, qui s'estiment victimes de l'inertie des gouvernements par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, qui prennent la parole. Autrement dit, c'est des prises de parole de victimes qui demandent tout simplement à être respectées. Et ça, c'est quand même très positif.
Ce matin, je recevais l'une des responsables du Parti Socialiste, Corinne Narasiguin, qui disait « On ne fait pas reculer le racisme en tentant de culpabiliser individuellement et collectivement les Blancs ». Vous êtes d'accord avec cela ?
Oui, bien sûr, mais c'est globalement, il faut répondre aux solutions, c'est-à-dire il faut apporter des solutions à ces problèmes de tension.
Alors les solutions, c'est quoi ? C'est une discrimination positive ? C'est par exemple Adidas qui décide, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui décide d'embaucher 30% de Noirs.
Mais la discrimination positive, elle peut apporter des solutions.
Vous êtes favorable, vous ?
Oui, je suis favorable à la discrimination positive dans certains cas. Qu'est-ce que c'est la discrimination positive ? Mais ça peut aussi s'appliquer avec des critères sociaux. Par exemple, les enfants qui naissent dans des familles plus pauvres ont plus de difficultés à accéder à l'école. Donc on pourrait, par exemple, davantage les équiper, davantage les accompagner, faire du soutien scolaire individualisé. La discrimination positive...
Vous êtes favorable à des quotas, alors ?
La discrimination positive, c'est l'égalité des chances. Donc, il faut faire cette discrimination positive en plus, sans retirer des droits à ceux qui n'ont pas besoin de discrimination positive. Vous voyez, il faut pas opposer les uns aux autres. Il faut rentrer dans des logiques de réconciliation en agissant pour l'égalité des chances.
Vous étiez hier soir place de la République.
Non, je n'étais pas place de la
Pourquoi
République.
Pourquoi non.
Parce que je
rassemblement
je
contre le racisme.
Je ne manifeste pas.
Vous ne manifeste jamais. Vous mettriez
non, je cherche des solutions et non, je cherche des solutions, mais bon, je ne manifeste pas.
Vous ne mettriez pas de genoux à terre.
Non, je ne pense pas.
Non. Non, non, non. Plaquer l'histoire de France sur l'histoire des États-Unis, n'est-ce pas une faute, une erreur ?
Nous ne sommes pas dans la situation des États-Unis, mais nous ne devons pas le devenir. Oui. Vous voyez ? Nous ne devons pas le devenir. Aux États-Unis, il y a 300 millions d'armes pour 330 à peu près millions d'habitants. 300 millions d'armes. Donc il y a une société hyper violente où tout le monde se méfie de tout le monde. Donc heureusement, en France et en Europe, il y a la réglementation sur la détention d'armes. Mais il ne faut pas devenir, en effet, des sociétés aussi violentes que la société des États-Unis d'Amérique.
Je faisais la pas moi, mais l'actualité a fait la comparaison, et certains l'ont fait, la comparaison entre la mort de George Floyd et la mort d'Adama Traoré. Même si ce sont des histoires totalement différentes, à des époques totalement différentes. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a proposé de recevoir la famille Traoré sous la pression d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'intervention du président de la République est une faute ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû...
Mais vous savez, moi, je connais bien Nicole Belloubet.
Oui.
Oui, elle était rectrice de l'Académie de Toulouse quand j'étais ministre de l'Enseignement scolaire. Donc, je pense qu'elle a pris cette initiative. Ils en ont forcément discuté, parce que la situation est quand même très, très tendue. Hein. Donc, tout ce que font les ministres est arbitré par le Premier ministre et par le président de la République. Mais je pense que c'était un geste humain, tout simplement, d'humanité. Mais c'est une erreur juridique, bien évidemment, puisqu'elle ne peut pas interférer dans une affaire qui est en instruction. Sinon, ça voudrait dire qu'elle reçoit...
Le président de la République a demandé de se pencher sur l'affaire Traoré. Mmh. Ça veut dire quoi,
Je ne sais pas, ce sont des informations... des suppositions.
Oui.
En tout cas, on ne peut pas la garde des Sceaux ne peut, c'est pas bien grave non plus. La garde des Sceaux ne peut pas se pencher sur une affaire qui est en cours d'instruction. En revanche, ce qui est étonnant dans cette affaire et qui pourrait peut-être apaiser la situation, une affaire quand même qui dure depuis 4 ans. Donc, on a d'un côté une famille en immense détresse par rapport à la mort d'un frère, d'un fils. Des policiers qui sont mis en accusation, sans preuve pour l'instant, des gendarmes, des expertises qui sont contradictoires, une reconstitution qui n'a pas toujours eu lieu. Donc il y a des solutions d'apaisement, d'abord que la reconstitution peut-être ait lieu, et ensuite que les experts qui ne disent pas tous la même chose soient réunis par le procureur pour savoir pourquoi il y a une telle divergence d'appréciation dans les faits qui ont conduit à la mort, tout simplement.
Qui a révélé cette possible rencontre invite Nicole Belloubet à convoquer le procureur et à demander la mise en examen des gendarmes. C'est pas son rôle.
Non, c'est le rôle du procureur. Mais je viens vous dire, moi, les solutions d'apaisement et de recalage de la procédure dans le respect de l'ensemble des parties pour la recherche de la vérité. Alors, mais au-delà, moi, je voudrais dire quand même sur la question des policiers et des gendarmes.
Ouais, j'allais y venir, oui.
Quand même, il faut mettre un certain nombre de repères parce que ça fait des sujets de tension supplémentaires. Oui. Rendez-vous compte quand même que nous sortons du confinement, que les Français se sont dit on va souffler un peu, on va relancer l'activité économique. Il y a quand même des souffrances économiques, sociales, psychologiques, émotionnelles, et on redécouvre à nouveau, on est à nouveau confronté à un sujet de tension extrême. Donc, il faut vraiment reconstruire de la confiance. Et je pense que gouverner, c'est apaiser. Et dans ce contexte, il faut remettre des repères. Parce que sinon, c'est le désordre généralisé.
Quels repères faut-il remettre ? Alors, lesquels ?
Le premier repère, c'est de rendre hommage au travail de la police et de la gendarmerie, quand même. C'est un travail extrêmement difficile.
Vous avez regardé Christophe Castaner hier matin, ici même ?
Oui, bien sûr, j'ai regardé.
Vous l'avez regardé ?
Et bien, justement,
il a rendu hommage.
Eh bien, je rends hommage au personnel, aux fonctionnaires de police et de gendarmes. Parce qu'ils ont un métier très difficile qui leur demande d'abord du courage, de la maturité, du sang-froid, et par conséquent, et surtout dans des zones difficiles, et par conséquent, nous devons être solidaires de ce grand corps républicain. Et ce qui compte, c'est l'ordre républicain. Le deuxième repère, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sans justice, ni de justice. Sécurité, ça rime aussi avec vérité. Donc, sécurité, justice, vérité, c'est très important.
On manque de vérité ?
Et l'ordre, oui, on manque de vérité.
Mais où ?
Donc c'est ça, mais c'est ça, c'est tout l'enjeu, c'est la clarification de la vérité. L'ordre juste, il n'y a pas d'ordre sans justice, ni de justice sans ordre. Donc ça, c'est un équilibre qu'il faut absolument garder. Et enfin, Jean-Jacques Bourdin.
Oui.
Les gendarmes et les policiers, qu'est-ce qu'ils subissent quand même depuis ces dernières années ? Ils ont subi les gilets jaunes, ils ont subi les mouvements retraite, ils ont subi la mobilisation aussi. On leur a demandé aussi de contenir les manifestations pourtant extrêmement justifiées dans l'hôpital public. C'est-à-dire que oui. La police est mise sous pression par un gouvernement qui mène des politiques antisociales. Ces politiques antisociales qui conduisent à des mouvements sociaux. Et donc aujourd'hui, on a une police qui est épuisée par le maintien de l'ordre et ce gouvernement est responsable, ce président sont responsables, c'est-à-dire qu'ils doivent, et je vais parler en positif, vraiment arrêter les politiques antisociales, arrêter les mouvements.
Que vous ne deviez plus critiquer.
Arrêter, au contraire, c'est des dynamiques d'action. Vous savez, comme je le disais à l'instant, gouverner, c'est apaiser. Donc si on arrête les politiques antisociales, on arrête les mouvements sociaux et on permet à la police de reprendre son souffle par rapport à des épreuves qui durent depuis trop longtemps.
Le Parti Socialiste qui demande la création d'une commission d'enquête sur les violences policières, vous vous associez à cela ? À cette demande ? Vous trouvez qu'elle est bienvenue ?
Il faut... Pourquoi pas, c'est le rôle et l'indépendance du Parlement. Donc le Parlement prend les initiatives qu'il croit utiles c'est le groupe socialiste. C'est de sa responsabilité. Mais quand même, ce qu'il faut rappeler, parce qu'on a l'impression qu'il y a une zone de non-droit, mais non. Il y a un code de déontologie de la police nationale que j'ai sous les yeux là. Le code de déontologie de la police nationale. C'est important pour les auditeurs qui nous entendent et qui pensent que comme ça, on est en train d'improviser. Parce que les réponses sont quand même improvisées là, par le gouvernement. Donc qu'est-ce que c'est ? Une seconde, le code de déontologie. À quoi sert la police nationale ? C'est intéressant quand même comme question.
Oui.
C'est un grand corps républicain, la police nationale. Donc la garantie des libertés. La défense des institutions de la République, il y en a quatre objectifs. Le maintien de la paix et de l'ordre public. Et enfin, la protection des personnes et des biens. Et ce qui est clairement dit dans ce code de déontologie, c'est que la possibilité d'utiliser la force, c'est quand même un pouvoir considérable qui donne des devoirs. Quand on porte l'uniforme, on a à la fois l'honneur de porter un uniforme et on a également des devoirs. Et ces devoirs, juste un mot, ils sont inscrits dans le code de déontologie qui dit ceci. L'usage de la force doit être strictement nécessaire et proportionné. Et toute personne appréhendée ne doit subir ni violence, ni traitement inhumain, ni traitement dégradant. Donc tout est dit dans le code de déontologie. Et par conséquent, à partir de l'application de ce code de déontologie, soit... il y a respect de ces règles et la police doit être protégée et défendue, soit il y a une infraction de la part de certains policiers, heureusement de façon très marginale, et ils ne doivent pas rester dans la police nationale.
Ils doivent être révoqués.
Oui, parce qu'ils ne méritent pas l'honneur qu'il leur est fait de porter l'uniforme et d'être dans la police.
Par exemple, les policiers qui échangent des propos racistes dans des groupes sur des réseaux sociaux, je ne sais pas, Facebook, WhatsApp ou autre, doivent être révoqués.
Mais bien sûr, mais dans le cadre de la présomption d'innocence et la procédure contradictoire.
Fait avéré, révocation.
Bien évidemment.
Déconfinement, le déconfinement sera...
Juste peut-être par rapport aux propositions qu'a fait le ministre de l'Intérieur.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il a parlé de soupçons avérés.
Oui.
Donc j'ai vu que ça avait suscité quand même un certain nombre de remous, à juste titre. Et je pense que dans ces domaines extrêmement sensibles, il ne faut pas improviser. Vous voyez, parce que tout d'un coup, maintenant, il va mettre les pistolets taser parce que pour... c'est pire que tout. Aux États-Unis, ces pistolets ont fait quand même plus de 500 morts. Donc, on a une espèce de gestion chaotique et improvisée. Et pour ne pas gérer les choses de façon improvisée, il faut en revenir au repère du droit. Celui que je viens de vous donner dans le code de déontologie. Et en ce qui concerne la question des soupçons avérés, il ne faut pas utiliser ce mot-là. Il faut utiliser le mot qui est dans le code de procédure pénale. Quel est ce mot dans le code de procédure pénale ? Ce sont les indices graves et concordants. Donc quand il y a des indices graves et concordants de faits de racisme, de faits de sexisme, de faits de discrimination Alors, en effet, il faut la suspension du fonctionnaire de police et la saisine immédiate du procureur de la République, sans attendre que la famille porte plainte. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent du fait que, alors même qu'il y a des indices graves et concordants sur des délits de certains fonctionnaires de police, on attend que les familles portent plainte. Non, c'est à la hiérarchie de saisir le procureur de la République sur la base de l'article 40, de signaler au procureur de la République. Mais le problème, et c'est pour ça que c'est intéressant dans les propositions à faire, c'est que souvent, la hiérarchie qui fait preuve de courage, c'est-à-dire qui saisit le procureur de la République, est parfois contredite par l'échelon hiérarchique supérieur. Donc, il faut aussi consolider, conforter, renforcer des hiérarchies qui sont courageuses, des commissaires de police qui font leur travail. Il faut leur donner de la responsabilité, plus d'autonomie et plus de considération. Et en ce qui concerne les propositions qui sont faites, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite ?
Oui.
Écoutez, donc, qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui ? C'est filmer les choses. Pourquoi donc, toutes ces affaires sont... Donc c'est la caméra piéton sur tous les policiers.
Oui, mais la caméra piéton ne fonctionne pas toujours.
Et bien, elle fonctionne.
Les batteries se déchargent.
Non. Alors là, si on met des limites techniques, non. La caméra piéton, pourquoi la caméra...
Donc enregistrer tous les contrôles d'identité.
Mais bien sûr, parce que ça protégera les policiers. Et d'ailleurs, l'expérience le prouve. Puisque vous savez, à un moment, il y a eu toute une polémique sur les aveux extorqués. Vous vous souvenez ça ?
Oui, bien sûr.
Il y avait des délinquants qui disaient, mais non, qui se cognaient contre un mur, qui avait un bleu, qui disaient, on m'a extorqué mes aveux, et donc je retire mes aveux lors du procès, retirer les aveux qu'ils avaient fait en garde à vue.
Oui.
Pour arrêter ces polémiques, qui sont d'ailleurs maintenant totalement arrêtées, toutes les gardes à vue pour les affaires criminelles et pour les affaires de mineurs ont été enregistrées.
Elles sont filmées.
Il n'y a plus de polémique. Il n'y a plus de polémique, ni de délinquants qui sont en garde à vue et qui se cognent contre un radiateur, ça c'est vu aussi, ensuite qui ont attaqué les policiers, ni de policiers qui se comportent contrairement à leur code de déontologie. Et ça, il n'y a plus...
Donc il faut enregistrer,
bien sûr,
d'une manière ou d'une autre, tous les contrôles d'identité.
Mais bien sûr,
et la caméra,
je pense que c'est ça qui...
Chaque policier doit être équipé de caméra en intervention.
Mais bien sûr, d'ailleurs il le demande, donc faisons-le. Et deuxièmement, il faut... rétablir la police de proximité. Quand vous voyez des interpellations, par exemple ce gamin-là, de 14 ans, là, qui a failli perdre un œil, qui est plaqué au sol. Mais s'il y avait une police de proximité, il connaîtrait les familles, il connaîtrait l'école. On avait mis en place, avec Jean-Pierre Chevènement, je me souviens, les contrats locaux de sécurité.
Je me souviens, oui.
Vous vous souvenez de ça ? Ça fonctionnait bien. Pourquoi ça a été supprimé ? Donc il faut reconstruire avec les élus locaux de proximité, parce que il faut associer la police de proximité, le milieu scolaire et les familles, et notamment les femmes, parce qu'il y a beaucoup de mères seules qui élèvent des adolescents, et c'est pas facile. Donc il y a des adultes référents dans les quartiers, il y a des associations de quartiers, il faut renouer ce lien de proximité dans les quartiers pour que les enfants, dès le plus jeune âge, aient le sens de l'éducation civique, des droits et des devoirs, de l'obéissance, de la bienveillance, de la réussite scolaire, etc. Et là, avec le déconfinement, je dis attention, parce que il risque d'y avoir beaucoup de problèmes dans les quartiers. Les jeunes ont été confinés, les parcs ont été fermés, les lieux de sport ont été fermés, alors que les jeunes, on le sait, il suffit d'avoir élevé des adolescents pour savoir qu'ils ont besoin de remuer, besoin de se défouler. Ils ont été confinés. Il y a un taux de chômage qui...
Je m'inquiète, là.
J'alerte parce qu'il y a un taux de chômage qui va être très élevé chez les jeunes. Et donc, il est absolument impératif de prendre à bras-le-corps la question des jeunes, de tous les jeunes, pas seulement les jeunes des quartiers, parce que même les jeunes diplômés aujourd'hui n'ont pas leur petit boulot d'été, n'ont pas leur stage, n'ont pas leur recrutement à la rentrée parce qu'il va y avoir des faillites d'entreprises. Donc... il faut, à mon avis, lancer des actions d'envergure, pourquoi pas des chantiers nationaux, pour vraiment que tous les jeunes aient soit une activité, soit un emploi
occupé
à la rentrée.
Occupé.
Voilà. Occupé, comme ça, ça leur évitera de faire des bêtises.
Est-ce qu'il faut accélérer le déconfinement, pensez, justement, pour permettre tout cela ?
Je crois que le bon vocabulaire, c'est d'être au bon rythme.
Au bon rythme.
Aller plus vite, mais en gardant les gestes de protection. Et moi, je suis comme très étonnée que dans les commerces ou sur la voie publique, les gens ne portent plus de masque.
Le masque devrait être obligatoire.
Bien sûr. Et en plus, ça aiderait les entreprises françaises. Vous avez vu qu'il y a un stock de masques.
On en a parlé,
Voilà. Mais bien sûr. Et déconfiner vite l'école. Il faut que les enfants retournent à l'école. Ça, c'est pas possible, un enfant sur cinq à l'école. Les commerces, les restaurants, mais avec les gestes de protection et notamment le port du masque dans les magasins.
Nous devons profondément changer nos modes de vie maintenant. C'est François Hollande qui disait ça dans une interview à un quotidien italien. Je ne sais pas si vous avez lu. Vous dites la même chose, quoi, finalement.
Je pense que ce confinement permet de réfléchir aux excès de la mondialisation. Il doit être pris comme une alerte. Ça doit être pris comme une alerte. Vous voyez, quand j'entends, par exemple, le secteur de l'aéronautique dire « on va revenir comme avant, dépêchons-nous pour qu'il y ait autant d'avions comme avant ». Mais non, il faut réfléchir aussi à la question du développement durable, de la lutte contre la pollution. Le virus vient d'une dégradation de la nature, d'une déforestation massive, d'un transfert de...
Oui.
Et les maladies viendront de plus en plus du dérèglement climatique. Donc on ne va pas recommencer le même type de développement hyper mondialisé où on échange ces maladies, on échange ces pollutions. Non, ça c'est pas possible. Donc il faut savoir ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas dans les civilisations que nous avons à construire. Et en tout cas, ce qui est très important, c'est passer de la défiance à la confiance. Vous voyez, si les gens sont confiants, le développement, la reprise économique va être rapide. Si les règles sont claires, si le modèle économique de développement durable est bien cadré, si l'horizon est fixé, il n'y a pas de raison que la relance économique ne soit pas rapide.
Vous avez un avenir présidentiel ou pas, alors, finalement ? Parce que ça a commencé ici, vous vous souvenez
quand je
vous
ai posé. Oui, c'est vrai.
Mais oui. Vous avez avancé depuis, vous avez un avenir présidentiel, vous voyez se dessiner, puisque vous voulez changer l'avenir, le monde, est-ce que vous voyez se dessiner un avenir présidentiel ? Sincèrement,
je pense que la prochaine élection présidentielle sera très différente de celle des autres.
Mais ça, c'est sûr.
Parce qu'on en a assez de l'hyper-présidentialisation d'un régime qui fait que quelques-uns pensent, que des hommes d'ailleurs, pensent qu'ils savent tout. Ils décident à deux ou trois, ils nous assènent des décisions. Et ensuite, lorsque ça se passe mal, ils disent « Ah ben si on avait réfléchi, peut-être que ça se serait passé autrement ». C'est ce qu'ils ont dit, par exemple, sur la revalorisation des métiers de l'hôpital public. Ça faisait un an de conflit social, un an pendant lesquels nous avons été nombreux à dire « Il faut écouter l'hôpital public, qui est au bord de l'effondrement, au bord de la dépression professionnelle ». Et maintenant, ils disent « Ah ben oui, ils avaient raison, donc ». Je suis convaincue que si l'on veut qu'il y ait une alternative démocratique, sociale, écologique à ce qui se passe aujourd'hui, il va falloir en effet être prêt pour incarner cette alternative. Non, c'est pas quelque chose de personnel, je pense.
Non, mais collectivement, vous êtes prête ?
Ça sera une décision collectif, parce que cette offre alternative pour redresser la France et lui donner une nouvelle espérance ne pourra réussir que s'il y a une union de celles et ceux qui pensent que les valeurs humaines doivent l'emporter
sur
les valeurs.
Vous êtes prête à vous engager pour cela ?
Vous le savez.
Oui, vous êtes prête.
Vous le savez.
Bon.
Mais ça sera une décision collective et ça sera conditionné par la capacité que nous aurons ou pas à nous rassembler.
Bien, merci Ségolène Royal. 8h55, vous êtes sur RMC, BFM TV le matin.